Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Simon Rubin.
Moi, quand je vois les gens qui continuent à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage dans certains endroits, ou à se ruer dans les marchés ouverts, ils n'ont pas compris le message.
Emmanuel Macron hausse le ton. Les consignes de confinement ne sont pas assez respectées. Conséquence, de nombreuses municipalités et préfectures ferment les plages ou les bords de fleuves. On fera d'ailleurs le point dans ce journal sur ces consignes qui manquent parfois de clarté. Que pouvez-vous faire quand vous sortez de chez vous? Eh bien, on va répondre à toutes les questions. Enfin, on s'intéressera aux initiatives qui peuvent changer les choses. Donner par exemple des tickets resto aux sans-abri.
Si vous avez des chèques déjeuner, des tickets restaurants, vous les envoyez au SAMU social de Paris et ça nous aidera à ne pas rompre cette chaîne alimentaire et de solidarité pour les personnes qui sont à la rue.
Cela peut sauver des vies, c'est l'appel ce soir du SAMU social. Ne manquez pas les prévisions complètes météo d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir vers 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Emmanuel qui reçoit ce soir Guillaume Husson, directeur général du syndicat des librairies françaises. Europe 1. La colère d'Emmanuel Macron. Il est allé aujourd'hui rendre visite aux chercheurs de l'Institut Pasteur, en pointe dans la lutte contre le coronavirus. Il a d'ailleurs annoncé le déblocage de 5 milliards d'euros pour la recherche sur 10 ans. Mais en marge de ce déplacement, Jean-Rémy Baudeau, le chef de l'État, a déploré l'attitude de certains Français qui ne respectent pas les consignes de confinement.
Oui, Emmanuel Macron a vu, comme tout le monde, les images de Français en balade, à faire du jogging le long des fleuves. Des images qui ont choqué au moment où le pays doit se confiner pour lutter contre l'épidémie. Il faut dire que le message peut troubler. Rester à la maison, mais continuer à aller travailler quand c'est nécessaire. Le chef de l'État, conscient de l'effort demandé aux Français, mais qui n'y va pas par quatre chemins. Au troisième jour du confinement, Emmanuel Macron considère que certains prennent le coronavirus trop à la légère.
Moi, quand je vois les gens qui continuent à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage dans certains endroits, ou à se ruer dans les marchés ouverts, ils n'ont pas compris le message. Donc, de dire au moins un mètre de distance, on ne se serre pas la main, on se lève avec du gel, que tout le monde fasse ça, qu'on ne sorte qu'en stricte nécessité pour aller faire ses courses, une fois par jour pour prendre l'air, etc., et qu'on ne se regroupe pas, ça c'est fondamental, c'est le plus important. Ce que j'observe, c'est que ça n'est pas aujourd'hui parfaitement respecté et qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui prennent encore ça à la légère.
Cette légèreté, c'est ce qui fait dire au président qu'il faudra vraisemblablement prolonger la période de distanciation sociale. Emmanuel Macron qui multiplie les entretiens et les déplacements. Ce soir, il s'est entretenu au téléphone avec les responsables des hôpitaux de Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Demain, cellule de crise place Beauvau, suivi d'un conseil de défense. Emmanuel Macron veut être auprès de ceux qui sont en difficulté, explique l'un de ses proches.
Et justement, parce que certains ne respectent pas les consignes, la Vendée, le Morbihan, la Corse, le Nord, l'Ille-et-Vilaine et le littoral méditerranéen ont décidé aujourd'hui de durcir les restrictions, notamment avec l'interdiction d'accès aux plages ou aux bords de fleuves. Salomé Legrand, ce qu'il faut dire et redire, et que certains d'entre nous d'ailleurs n'ont pas véritablement intégré, c'est qu'on n'a pas le droit de se déplacer pour des loisirs.
Et non, parce qu'il faut limiter le nombre de gens que l'on croise tous les jours. Idéalement 2, maximum 5, même avec cette fameuse distance d'un mètre, qui n'est pas totalement une protection. Du coup, même les grandes plages landaises où l'on se croit tout seul, c'est non, explique Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine.
Il ne faut pas penser qu'on est tout seul. En fait, on n'est jamais tout seul. Et quand vous allez à la plage, vous sortez de chez vous, vous allez rencontrer évidemment quelques personnes dans la rue, même à un mètre. Et puis vous allez arriver sur la plage et bien sûr, vous n'êtes pas le seul à avoir pensé à aller prendre le soleil sur la plage. Donc forcément, vous allez croiser d'autres personnes et très rapidement, et bien sans même vous en rendre compte, vous aurez croisé 10, 20, 30 personnes qui, même si elles sont à un mètre, constituent quand même un nombre de contacts beaucoup trop important dans cette période de confinement strict. Et puis à la plage, il y a du vent. Les gouttelettes peuvent être transportées par le vent et vous atteindre très rapidement. Donc non, ce n'est vraiment pas une bonne idée.
Et c'est pareil pour la course à pied. Le ministère des Sports l'a redit aujourd'hui. 1 ou 2 kilomètres autour de chez soi, pas plus. Quant au vélo, il n'est autorisé que pour les déplacements professionnels. Et attention, les autorités ont annoncé des contrôles plus stricts dès demain.
Vous l'entendiez, on ne doit donc pas sortir pour les loisirs. En revanche, pour le travail, c'est différent. Il faut maintenir l'activité des secteurs essentiels. C'est le message martelé par le président de la République aujourd'hui. Un message à l'adresse de tous les salariés de ces secteurs cruciaux de l'économie. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Clairement, le but de cet appel d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter un arrêt total de l'économie française.
La France est en partie à l'arrêt et l'exécutif craint la panne générale car de nombreux salariés refusent d'aller travailler. Si ça devait se renforcer, ce serait toute la chaîne logistique qui pourrait être mise en danger. En effet, il faut bien évidemment réussir à produire, il faut transporter les produits, il faut donc du monde au péage par exemple pour faire passer les camions. Puis imaginons, un camion tombe en panne, il faut bien aussi pouvoir le réparer. Ce n'est pas simple, surtout que dans certains secteurs, y compris dans les rangs patronaux, on appelle à l'arrêt, c'est le cas par exemple du secteur du bâtiment, trop dangereux selon eux d'assurer la sécurité et puis les matériaux commencent en plus à manquer. C'est beaucoup moins vrai dans les secteurs dits vitaux comme l'eau, l'énergie, la poste, là ça fonctionne même si beaucoup de salariés sont aussi inquiets et estiment que les mesures de sécurité ne sont pas optimales. Organisations syndicales et patronales mettent en ce moment même la dernière main à un projet de charte de bonne conduite pour rassurer les équipes. Il doit y avoir une union sacrée entre nous, dit-on notamment dans le camp patronal.
Le ministre Édouard Philippe annonce pour sa part le report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour et qui devaient se tenir dès demain et jusqu'à dimanche. Réunions qui devaient permettre de désigner les maires et leurs adjoints. Les équipes sortantes d'environ 30 000 communes concernées voient donc leur mandat prolongé jusqu'à mi-mai au moins, jusqu'au rapport du conseil scientifique sur la situation sanitaire. Écoutez la réaction du maire de Reims, Arnaud Robinet.
Je salue la décision du Premier ministre. Il en va bien sûr de la sécurité sanitaire de l'ensemble des concitoyens, parce que réunir, en tout cas pour la ville de Reims, plus de 60 personnes dans un lieu confiné, il y a peut-être des élus, des agents qui sont porteurs du virus, d'autres qui ne le sont pas. Et donc pour moi, c'était aberrant de vouloir imposer aux communes une réunion d'installation de conseil municipal entre vendredi et dimanche. Je pense que la raison l'a emporté. Si j'ai bien compris, le conseil scientifique a donné un avis défavorable au Premier ministre. Il y a eu sûrement des échanges avec un certain nombre de parlementaires. Et en tout cas, je suis très heureux, en tout cas et satisfait par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, que l'appel que j'avais lancé avec d'autres maires dès hier soir ait été entendu.
Le maire de Reims, Arnaud Robinet, au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois. Et puis on vous racontait hier l'inquiétude des salariés d'Amazon dans le Nord ou encore dans la Drôme, des salariés qui menaçaient de faire valoir leur droit de retrait, alors que leur direction les obligeait à travailler. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu à leur secours, Lionel Gougelot, en dénonçant les pressions inacceptables du géant de la vente à distance sur les salariés.
Eh bien oui, parce que selon les syndicats, la direction d'Amazon menace les salariés qui veulent exercer leur droit de retrait de les sanctionner pour absence injustifiée. Du coup, malgré des mesures de protection sanitaire insuffisantes dans les entrepôts géants, beaucoup vont travailler la peur au ventre, selon Jérôme Guillain, représentant du syndicat Sud Solidaire sur la plateforme Amazon près de Douai.
Ils ont la peur d'attraper le virus, ils regardent tout le monde dans un coin pour savoir si la personne va tousser, va être malade. En fait, ils savent plus, quoi. Donc ils rentrent la tête en bas et puis ils y vont, quoi. Comme à l'abattoir, quoi.
Alors forcément, ils ont trouvé, dans les propos de Bruno Le Maire, qui parlait de pression inacceptable ce matin, un soutien presque inespéré.
Il était temps que quelqu'un qui représente l'État, enfin bouge, enfin mette la réalité en face des yeux de ses dirigeants. Voilà, peut-être même qu'à l'intérieur même de nos dirigeants, nous ici en France, ils ont peur. Mais ils ne font qu'exercer que ce que demande Amazon. Donc voilà, c'est tout. Et maintenant, il faut que ça bouge. Si au plus haut, ça ne bouge pas, c'est-à-dire au niveau de l'État, il n'y a que eux qui pourront faire bouger ce géant, quoi.
Amazon qui, parallèlement, aurait proposé des négociations pour augmenter les salaires. Une façon de monnayer la santé des salariés, disent les syndicats, qui réclament donc la fermeture pure et simple du site ou à tout le moins la réduction des expéditions aux produits de première nécessité.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Et dans le même temps, les personnels soignants, eux, continuent de traiter un maximum de malades dans des conditions toujours précaires. C'est ce que dénonce le professeur Jean-Paul Hamon, qui était l'invité du 18-20 sur Europe 1. Il a notamment insisté sur le manque dramatique de masques pour les médecins, et pour lui y compris, puisqu'il est infecté du Covid-19. Et
en fait, j'ai eu une première explication, à savoir qu'en 2008 jusqu'en 2012, on avait 700 millions de masques FFP2. Et ces stocks n'ont pas été renouvelés. Xavier Bertrand avait pourtant inscrit dans le PLFSS à partir de 2008, je crois, le plan de financement de la sécurité sociale qui votait chaque année par l'Assemblée. Il y avait une ligne qui devait coûter 15 millions pour le renouvellement de ces masques. Et puis en 2013, un minable comptable a voulu gratter 15 millions dans le budget de la sécurité sociale et a supprimé cette ligne. La deuxième explication, c'est que les quatre fabriques de masques françaises fabriquent des masques à temps plein depuis début janvier, sauf que ces masques ne sont pas réservés à la France, elles en vendaient beaucoup à l'étranger. Agnès Buzyn peut verser une larme, mais moi je vais sortir mon mouchoir pour elle, parce que beaucoup de masques ont été vendus à l'étranger, alors que nous n'avions pas la capacité de fournir les masques pour les professionnels de santé.
Le professeur Jean-Paul Hamon, qui était l'invité du 18-20 d'Europe 1. Et puis, nouveau bilan quotidien du ministère de la Santé, un 108 décès supplémentaires à cause du Covid-19 en France ces dernières 24 heures. 372 décès au total et plus de 4700 personnes sont hospitalisées en France.
Europe 1, le journal de la nuit.
Ils sont des milliers de Français bloqués à l'étranger en ce moment même et qui tentent de trouver un vol avant que les frontières ne ferment définitivement. Pauline Jacquot, ils sont nombreux, hein, ces Français bloqués, et surtout, ils sont très inquiets.
Oui, en Espagne, par exemple, en ce moment, il y a encore une trentaine de Français bloqués à Las Palmas, aux Canaries. C'est un groupe de voyageurs partis ensemble de la région lyonnaise, parmi lesquels Frédéric. Leur hôtel allait fermer dans quelques jours. Ils sont désormais dans une auberge de jeunesse, depuis laquelle ils cherchent un moyen de rentrer en France.
Tous autant qu'on y est, on est tous avec nos téléphones à essayer de trouver. Et puis dès qu'il y en a un qui trouve bataille, il y a ce vol qui a l'air d'être mis en place. On s'y inscrit, mais quand on voit le nombre d'annulations qu'il y a, on n'y croit vraiment pas trop. Las Palmas, Barcelone.
Et de Barcelone, il faudra encore rallier Paris, Lyon, pour enfin pouvoir rentrer chez eux. À des milliers de kilomètres de là, aux Philippines, Sandra essaye depuis une semaine de quitter l'île de Cebu. Ça fait trois fois qu'elle doit repayer un billet d'avion à cause des annulations.
On perd notre billet. Tout de suite, on a le réflexe de survie. C'est d'aller soit sur Internet et d'essayer de booker un maximum de billets d'avion qui sont extrêmement cher, ou sinon c'est d'appeler la famille en France et d'essayer de leur dire d'appeler des compagnies. J'étais avec ma famille au téléphone, ils sont restés 3 heures pour essayer d'avoir Emirates. On a réussi à avoir des nouvelles places que pour le 24.
Le 24, mardi prochain, elle fait partie des chanceuses, dit-elle, des dizaines de personnes avec qui elle est en lien sur les réseaux sociaux sont obligées de dormir devant l'aéroport de Manille en attendant de pouvoir monter dans un avion.
Pauline Jacquot et le ministère des Affaires étrangères qui appelle ces touristes et ces Français qui veulent rentrer en France et qui sont à l'étranger à faire preuve de patience. Et alors que vous êtes nombreux à ne pas vous servir de vos tickets resto en ce moment, eh bien ce soir sur Europe 1, on vous propose de les utiliser ou plutôt de les rendre utiles à d'autres. Le SAMU social vous lance un appel, hein, que vous soyez particulier ou entreprise. Et si vous donniez ces chèques déjeuner aux sans-abri, puisqu'ils ne servent plus beaucoup en temps de confinement, un geste tout simple, mais qui permettra aussi de sauver des vies. Alain Krisnart, président du SAMU social de Paris.
Les personnes qui sont sans domicile fixe ont besoin de s'alimenter tous les jours. Les circuits d'approvisionnement qui fonctionnaient avec des distributions alimentaires à partir de volontaires sont souvent en panne. Donc nous, on veut leur distribuer soit des paniers repas, soit surtout des tickets restaurants qui leur permettront d'aller dans les épiceries et de se nourrir. On en a reçu 20 000 d'une banque, hein, la BNP. On a besoin dans un premier temps de 100 000 tickets. Donc c'est facile, si vous avez des chèques déjeuner, des tickets restaurants, vous les envoyez au SAMU social de Paris, 59 rue Ledru-Rollin, Ivry, 94-200. Et ça nous aidera à ne pas rompre cette chaîne alimentaire et de solidarité pour les personnes qui sont à la rue.
Alain Krisnart, président du SAMU social de Paris, propos recueillis par Victor Dolande. Et puis, autre initiative à Lyon, une maison médicale d'un nouveau genre qui vient de voir le jour et qui a pour mission spécifique d'accueillir les patients qui souffrent du coronavirus, mais qui n'ont pas besoin d'être accueillis dans les hôpitaux. Jean-Luc Boujon.
Oui, effectivement, la première a ouvert ses portes ce matin à 8h, mais en fait, vous ne pouvez pas aller de vous-même directement dans cette maison médicale. Si par exemple vous avez certains symptômes, vous devez d'abord appeler le 15 et c'est le SAMU qui vous y enverra après questionnaire s'il suspecte un cas de coronavirus, si les symptômes ressemblent. Ensuite, vous prenez rendez-vous dans cette maison médicale, c'est absolument obligatoire, explique le docteur Pascal Duro, médecin qui a piloté le projet.
Donc on fonctionne en rendez-vous, de façon à ce que dans la salle d'attente, il n'y ait pas plus d'une personne. On ne veut pas que les gens s'intercontaminent. On fait extrêmement attention, les gens sont en salle d'attente, ils portent un masque dès l'arrivée, la secrétaire est protégée, le médecin est protégé. On met en place des outils, on ne veut pas faire prendre de risques ni aux patients qui viennent, ni aux soignants qui sont dans ce dispositif.
Alors le but, c'est que ça retire des cabinets médicaux classiques des cas potentiels de coronavirus. Alors les médecins qui officient dans cette maison médicale dédiée sont des médecins remplaçants, donc des médecins qui n'étaient pas employés jusque-là et qui veulent participer à l'effort collectif. Et une deuxième maison de ce type devrait ouvrir à Lyon lundi prochain.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en région Rhône-Alpes. Et puis on vient de l'apprendre, l'Assemblée vient de voter à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative, un volet financier qui contient les mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Alors il y aura un examen de ce texte demain au Sénat, un texte qui anticipe surtout un lourd impact du coronavirus sur l'économie française. On rappelle que les services de Bercy prévoient une récession de 1% et un déficit public à hauteur de 3,9% du produit intérieur brut en 2020. Un mot de sport, on a appris aujourd'hui les annulations logiques des grands prix de Formule 1 européens d'Espagne, de Monaco et des Pays-Bas. Et puis si les Jeux Olympiques de Tokyo ne sont pas encore reportés, cela pourrait être le cas. L'hypothèse est en tout cas crédible, selon le président de la Fédération internationale d'athlétisme, l'anglais Sébastien Coe, qui était interrogé par le journal britannique Le Guardian. Enfin, le festival de Cannes n'aura pas lieu, annonce ce soir des organisateurs qui reportent la quinzaine. Alors, plusieurs hypothèses sont à l'étude afin de préserver le déroulement de la quinzaine. A priori, le report se situerait toujours à Cannes et plutôt fin juin, début juillet 2020, explique la direction du festival. On jette un œil sur la météo de demain avec vous, Anissa Haddadi. Il y a quelques nuages qui arrivent.
Oui, effectivement, Simon, mais c'est une perturbation peu active qui nous vient des îles britanniques. Elle va toucher le nord et le nord-ouest demain matin, avec sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France des pluies éparses qui vont se manifester sous forme d'averses, donc vraiment pas grand-chose. À la frontière italienne aussi, quelques gouttes sont au programme de votre matinée demain, avec d'ailleurs une limite pluie-neige fixée à 1700 mètres pour les Alpes du Sud. Sur le Grand Est, la région parisienne et le Sud-Ouest, la journée va commencer sous les brumes et les brouillards comme ces derniers jours, et puis vous verrez au fil des heures, ces brumes vont se dissiper pour laisser place dans l'après-midi au soleil, avec toujours sur le golfe du Lion, les entrées maritimes le matin. Dans l'après-midi, le soleil va dominer sur toute la moitié sud du pays, avec sur la façade est un temps beaucoup plus instable, nous aurons quelques averses de l'Alsace à la Côte d'Azur et puis le vent d'OTAN qui souffle toujours à 70 km/h. Alors les températures, le matin elles sont agréables, 5 à 8 en moyenne, 8 à 10 degrés sur la Bretagne, la façade atlantique et le sud. Et puis au meilleur de la journée, ça va baisser un petit peu demain après-midi. 11 à Cherbourg, 12 à Lille, 14 pour Paris. Aujourd'hui, on avait 19 degrés. 16 à Metz et Rodez, 18 à Marseille, 20 à Orléans et 22 pour Montluçon.
Ils ont de la chance à Montluçon. La météo qui était signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Guillaume Husson, directeur général du syndicat des librairies françaises. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 22h19, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Simon.
Et Wall Street qui s'offre une séance de hausse ce soir en pleine crise du coronavirus.
Oui, c'est grâce aux mesures de soutien qui rassurent. Enfin, le Dow Jones gagne 0,95%, 20 087 points. Pour le Nasdaq, c'est un gain de 2,3% à 7 150 points. On remonte donc un peu grâce aux mesures exceptionnelles des grandes banques centrales ces dernières heures. La Fed, mais aussi la Banque Centrale Européenne, sortent les grands moyens pour soutenir l'économie. Ça amortit un peu le choc provoqué par le coronavirus. On a des grandes valeurs qui décollent ce soir. McDonald's, par exemple, plus 9%, Disney plus 7%, plus 18% pour Tesla et ses voitures électriques. Une hausse spectaculaire aussi pour la marque de mode Guess, plus 124% pour Guess après de gros bénéfices trimestriels. Le pétrole avait plongé hier, et bien il flambe de 24%, c'est toujours les montagnes russes. Et puis l'euro dégringole de 2,2% à 1,0673 après les annonces de la BCE.
À Paris, le CAC 40 aussi reprend des couleurs ce soir.
Oui, encore une séance très volatile à Paris avec beaucoup d'hésitations. Mais le CAC 40 rebondit finalement plus 2,68% à 3855 points. L'indice remonte et c'est un bol d'air pour certaines valeurs particulièrement chahutées depuis le début de l'épidémie. Airbus, le géant aéronautique, reprend 10%. Air France KLM rebondit de 5%. C'est mieux aussi pour le secteur automobile. Peugeot gagne 5%, plus 7,6% pour l'équipementier Valeo.
Et très fort rebond aussi pour le titre Unibail Rodamco.
Plus 18% pour le groupe d'immobilier commercial qui a beaucoup souffert depuis le début de la semaine. Unibail Rodamco rassure en annonçant qu'il est capable de se financer. Beaucoup de commerces sont fermés pour stopper l'épidémie. Et bien sûr, c'est très compliqué pour le groupe qui gère de grands centres commerciaux en France ou aux États-Unis. Ailleurs, en Europe, les marchés reprennent un peu de hauteur. Londres gagne 1,4%, plus 2% pour Francfort, plus 1,9% pour Madrid, plus 2,2% pour Milan. Et à Paris, le CAC 40 remonte lui aussi, plus 2,7%, 3855 points.
Merci pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Dutheil. Vous recevez ce soir Guillaume Husson, directeur général du syndicat des librairies françaises.
Bonsoir Guillaume Husson.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du syndicat de la librairie française. Alors en cette période de confinement, on a besoin de vous, on a besoin des livres pour beaucoup, pour s'occuper. Est-ce que déjà, juste avant le début de la période de confinement, est-ce que vous avez eu une razzia dans vos magasins?
Alors il y a eu beaucoup de clients samedi dernier quand les rumeurs autour du confinement montaient. Et depuis, 99% des librairies sont fermées. Les seules qui restent éventuellement ouvertes sont celles qui vendent également de la presse, puisque vous savez que les commerces de presse sont ouverts, font partie des exceptions. Mais la quasi-totalité des librairies françaises sont aujourd'hui fermées.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a dit ce matin que vous pourriez peut-être être un secteur prioritaire et donc rouvrir pour accompagner les gens, pour essayer de les occuper un petit peu pendant cette période. Vous êtes prêt, vous, à ouvrir vos librairies?
Alors, nous avons communiqué hier pour nous étonner que d'un côté le gouvernement demande la fermeture des librairies et de l'autre accepte que des acteurs puissants comme Amazon continuent de vendre des livres. Ça veut dire quoi, continuer de vendre des livres quand on est un opérateur en ligne? Ça veut dire que il y a des salariés qui tous les jours se rendent dans les entrepôts d'Amazon, prennent des transports, sont en contact entre eux, préparent des colis. Il y a ensuite des transporteurs, il y a des livreurs qui viennent à votre domicile. Donc il y a toute une chaîne logistique qui fait que beaucoup de gens sont en contact entre eux et nous avons souligné le fait que ça nous paraissait être une hérésie sanitaire quand on demande aux gens de rester chez eux, de laisser se perpétuer des chaînes logistiques comme ça qui mettent en contact les gens les uns avec les autres. Nous ne sommes pas prêts à rouvrir pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité de chacun, et en tous les cas, c'est la responsabilité des libraires, c'est l'urgence sanitaire. On ne peut pas, d'un côté, demander aux gens de rester chez eux, déclarer un état d'urgence, un état de guerre sanitaire, et se préoccuper, comme le fait Amazon, de gagner quelques euros. Donc, la priorité des libraires aujourd'hui, comme celle de leurs clients, c'est que cette crise se termine le plus rapidement possible. Donc l'urgence, c'est l'urgence sanitaire. Ensuite, bien évidemment, il sera temps de se pencher, et on a déjà commencé à travailler avec les différents ministères et les fournisseurs, les éditeurs sur ces questions-là, sur l'urgence économique qui viendra, puisque bien évidemment c'est un coup dur pour la profession. Mais l'urgence, à ce jour, c'est l'urgence sanitaire. Il ne faut pas mettre en danger ni les salariés des librairies, ni les clients des librairies.
Vous parliez d'Amazon qui livre et qui continue de livrer notamment des livres. Est-ce que vous, du côté des librairies indépendantes françaises, vous pouvez aussi continuer à livrer, ou c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on commandait sur vos sites, ça partait tout simplement de vos librairies et vu qu'il n'y a personne dedans, c'est impossible d'assurer le service?
Juridiquement, les librairies pourraient le faire. Elles ont décidé moralement, dans leur écrasante majorité, de cesser de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gérant d'une librairie pourrait aller tous les jours dans sa librairie pour faire des paquets et pour les porter à des clients par la poste ou même ou même en vélo, hein, ça se fait dans certaines villes. Mais tout ça, ce sont des contacts entre des personnes physiques. Et donc, qui dit contact entre personnes physiques dit risque de propagation de l'épidémie. Donc, même cette possibilité de service qui est permise juridiquement, les libraires ont cessé de l'offrir. Et c'est un crève-cœur, hein. Le boulot d'un libraire, c'est de vendre des livres, c'est de faire plaisir à ses clients, c'est de conseiller des livres. Donc, c'est un crève-cœur de dire on arrête. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous confinés chez nous et nous avons tous bien compris qu'il fallait mettre notre vie normale, entre parenthèses, pour reprendre le plus vite possible. C'est bien ça l'objectif.
Bruno Le Maire, toujours lui, hein, le ministre de l'économie, a par ailleurs ce matin tapé fort sur Amazon en disant qu'il forçait leur personnel à venir travailler. C'est un signe de plus d'une concurrence déloyale, d'après vous ?
Oui, c'est une concurrence déloyale. Amazon aujourd'hui cherche à se faire de l'argent sur cette épidémie et cet argent va être placé au Luxembourg pour ne pas payer d'impôts en France. C'est une situation qui nous paraît absolument scandaleuse.
Par ailleurs, et ce sera ma dernière question, de grands auteurs viennent d'annoncer qu'ils allaient repousser la date de sortie de leurs livres parce que par définition, vous ne pouvez pas les vendre. Vous soutenez, j'imagine, également cette initiative et vous essaierez de repartir encore plus fort une fois que cette épidémie sera passée ?
Bien sûr, nous, ce que l'on demande aux auteurs, aux éditeurs et bien sûr aux lecteurs, c'est lorsque l'économie va repartir, lorsque les librairies vont réouvrir, qu'il y ait des élans de solidarité pour que l'on arrive à compenser ce coup dur que cette profession, qui est déjà fragile, prend en pleine figure aujourd'hui.
Eh bien, un grand merci en tout cas d'être intervenu ce soir sur Europe 1. Bien évidemment, depuis chez vous, je le suis également chez moi, Europe 1, radio ouverte. On essaie de vous faire vivre l'actualité au quotidien, de vous informer, d'être à vos côtés, mais tout en respectant les consignes de sécurité. Un grand merci Guillaume Husson, directeur général du syndicat de la librairie française, d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Et à demain, Emmanuel Duteil. Dans un instant, on va jeter un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères et consoeurs de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Vous vous doutez sans doute du sujet principal. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. La libre antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La libre antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence.
Pour joindre Olivier Delacroix, appelez dès maintenant le 3921. 50 centimes la minute.
A tout de suite sur Europe 1.
Et voici donc le moment de découvrir les unes de vos quotidiens de demain sur le front. Sur le front, c'est le titre de La Croix, avec en photo une soignante gantée, masquée, portant des lunettes de protection. Et pour cause, La Croix a choisi de donner la parole aux soignants, à ceux et celles qui sauvent nos vies, avec un zoom sur la pénurie de masques qui inquiète les médecins. Les soignants sont aussi à la une de Libération, Libé, qui met en avant une photo similaire et un titre en un mot. Merci. L'opinion s'interroge pour sa part sur le manque de masques encore. Dans son édito, Nicolas Bétou revient lui sur la communication trouble du gouvernement. Le quotidien qui s'intéresse aussi au soutien nos limites de la BCE à l'économie européenne. Et puis le risque de paralysie de l'économie, c'est le titre choisi par le journal Les Échos. Les masques et la pénurie, encore une fois en question, et cette fois c'est à la une du Figaro. Et puis enfin, cette question qu'on ose à peine se posé. Eh bien, Ouest-France la met en une. Combien de temps restera-t-on confiné ? Les autorités, en tout cas, évoquent la possibilité très forte aujourd'hui de voir ce confinement durer au-delà des deux semaines initiales. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques qui sont encore ouverts. Très belle soirée à l'écoute d'Europe 1. Vient le moment pour moi de passer le bâton de parole à Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier. Bonsoir.